premier roman très remarqué de Marie Vintras, Blizzard, a reçu en 2022 le prix des libraires, le prix à livre ouvert, le prix littéraire Esprit Libre, le prix Première Parole, mais aussi le prix du métro Goncourt qui ne récompense que des premiers romans. Marie Vintras était au lycée Hôtelier de l'Argentière. L'écrivaine y a rencontré la classe de seconde bac professionnel.
Là, votre livre, il est au prix littéraire de 2022. Qu'est-ce que ça vous fait, puisque c'est votre premier livre ?
C'est très chouette. Quand j'ai commencé à rencontrer les premières classes de lycéens, un peu par hasard, c'était dans une médiathèque, un directeur de médiathèque qui s'est dit « Tiens, on va proposer au lycée d'à côté ». Et là, je suis sortie et j'ai dit « Mais c'est génial, en fait, ils sont... » C'était mieux que les rencontres avec les adultes, parce que ce n'est pas du tout les mêmes questions. Je pense que comme vous avez 16 ans et que vous avez la vie devant vous et que vous êtes à un âge où on est encore assez idéaliste, c'est une lecture du livre qui est beaucoup plus belle, moins terre à terre. Des questions. Voilà, il y a un lycéen qui m'a dit « Mais pourquoi vous avez un personnage raciste et misogyne ?» Donc ça lui... C'est quelque chose qu'il secouait, alors que les adultes sont plus blasés sur ce type de personnage. Moi, j'ai mis un personnage comme ça parce qu'il y en a dans la vraie vie et qu'on ne peut pas non plus, dans la fiction, gommer ce qui fait la vraie vie. Donc je suis très contente d'être dans ce prix des lycéens et j'ai des super rencontres à chaque fois. Donc c'est vraiment très chouette parce qu'en plus, je ne pensais pas du tout toucher un lectorat de lycéens. Et c'est drôle parce que ma première rencontre de lycéens, c'était le lendemain d'une rencontre en librairie où il y avait une dame de 94 ans qui était venue me voir en me disant « Ah, le coup de pelle, j'adorais le coup de pelle !» Alors je me suis dit « Tiens, ça plaît aux vieilles dames de 94 ans. » Et puis le lendemain, j'ai un jeune homme de 15 ans qui me dit « Moi, je lis jamais, mais votre livre, je l'ai lu. » Et je me suis dit « 94 et 15 ans ?» Donc ça veut dire qu'un livre, ça peut vraiment parler sans distinction d'âge. Et ça, j'étais très émue. Franchement, ça m'a beaucoup émue parce que je ne m'y attendais pas.
Aujourd'hui, ce matin, on accueille une autrice dans le cadre du prix littéraire de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Sandra Prévost-Jégu, documentaliste au lycée hôtelier de l'Argentière.
Cette autrice s'appelle Marie Vintras. Elle a écrit « Blizzard ». Et son livre est assez connu puisqu'il a reçu le prix des libraires 2022. Et pour l'accueillir, on a aménagé une partie du CDI en resto librairie qu'on a appelé Cook and Book.
Elle a rencontré une classe ce matin. Quelle classe a été sélectionnée? Pourquoi cette classe?
Alors, elle a rencontré la classe de seconde bac pro.
Christophe Reynaud, professeur au lycée hôtelier de l'Argentière.
On avait raté tous les appels à projets de la région autre, et donc il reste celui-là pour lequel je savais que c'est ambitieux de faire lire des jeunes. Et donc je me suis dit, allez, on y va. Et puis c'était sans regret finalement. Ça a été tout de suite sans regret d'ailleurs.
Et tu dis ça parce que les jeunes l'ont accueilli très bien ce projet au départ, ou est-ce que la lecture a été un peu un frein au départ, hein, au niveau de l'engouement?
Annoncer à des jeunes « Ah, on a un super projet pour vous, va falloir lire 8 livres », comment dire, il y a des choses qui peuvent emballer plus, et en fait, les rencontres, ça amène à montrer que la lecture, c'est intéressant, quoi. Alors, toutes ne sont pas parties en se disant « chouette, on va lire des livres », mais en tout cas, il n'y a pas eu de réticence, de levée de bouclier, comme ce à quoi je pouvais m'attendre. Ça tient aussi à notre charisme, hein, Sandra.
On avait un peu peur de ça au début, quand on a présenté le projet. On leur a dit « on a un super projet cette année, c'est quoi? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on voyage ?» On leur a dit « c'est effectivement, on va voyager, on va aller dans plein de pays, mais à travers des livres ». Donc là, il y a eu une petite pointe de déception quand même. Mais au final, ils sont hyper vite rentrés dans le projet. Ils se sont mis à lire alors qu'on craignait qu'il y ait vraiment un blocage et qu'ils n'aient pas du tout envie d'ouvrir un livre. En fait, ils ont lu, ils ont pris plaisir à lire, je pense, et puis encore plus plaisir à organiser les rencontres, à proposer des choses aux auteurs, à préparer les buffets. Et puis, ils prennent vraiment plaisir au moment de la rencontre. Ils sont hyper à l'écoute, intéressés, curieux, ils posent plein de questions. Et c'est vraiment chouette, c'est vraiment des beaux échanges.
Votre éditeur, dont je m'en rappelle plus le nom, parce que vous n'êtes pas connu, enfin, connu, c'est votre premier livre fini, vous n'avez pas de contact dans ce domaine-là. Comment ça se fait que votre éditeur vous ait dit, bah, pas de problème, venez? Comment ça s'est passé?
C'est un peu une loterie, en fait. Quand je l'ai terminé, je me suis dit, ça y est, on a enfin terminé un, les 7 autres sont des souvenirs. Et là, moi, un peu naïf, parce que je suis un peu naïf par moment, je me suis dit, tiens, allez hop, on va l'envoyer par la poste. Donc, je l'ai envoyé par la poste un peu par hasard, parce que je suis comme n'importe quelle personne qui n'a jamais été éditée. Je ne sais pas à qui on l'envoie, quels éditeurs. Donc, j'ai regardé dans la bibliothèque quelles étaient les maisons d'édition que je lisais. Donc, j'en ai identifié 5 qui étaient plus présentes dans ma bibliothèque. J'ai envoyé ça... sous pseudonyme, avec juste une adresse mail, pas de lettre, je savais même pas qu'il fallait accompagner d'une lettre avec quelques mots polis pour l'éditeur, et c'était un peu dingue, en fait. J'ai compris après qu'il y avait quand même une probabilité assez dingue que personne ne me réponde, enfin qu'on me dise... Et donc la chance, c'est que j'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. Après, j'ai renvoyé un paquet de 5, donc j'ai contacté 10 maisons en tout. J'ai eu essentiellement des lettres de refus ou pas de réponse, puisque c'était fin janvier 2020. Donc, vous voyez ce qui s'est passé en 2020, mi-mars. Donc voilà, en fait, je l'ai envoyé pile au bon moment. 15 jours plus tard, c'était terminé, il serait parti... Aucun éditeur n'est rentré chez lui avec des valises de manuscrits, donc ils n'en ont pas lu, en fait. Tout ce qui a été envoyé en janvier, février, mars 2020, la plupart n'ont pas été édités. Et donc, j'ai eu de la chance parce qu'aux éditions de l'Olivier, il y a quelqu'un, une vraie éditrice, qui ouvre les enveloppes, qui lit 20 pages de tous les manuscrits, les 20 premières pages. Et donc, elle a lu les 20 premières pages, elle m'a appelée. Mais c'est vraiment... quand je dis que j'ai eu de la chance, c'est que c'est vraiment de la chance.
Moi, j'ai une question. C'est combien vous gagnez par livre?
Ah, alors ça, c'est une bonne question, parce que moi non plus, je ne savais pas combien on gagnait par livre. Eh bien, on n'est pas riche avec les livres. On gagne un pourcentage du prix hors taxe du livre. Donc, bizarre, il est vendu à 17 euros TTC, donc hors taxe, ça fait 1,60 euros et des poussières. Donc, c'est des paliers. Jusqu'à 10 000, c'est 10%. 10 000 à 20 000, ça doit être 12%. Et après, 14%. Et c'est rare d'aller au-delà. Les écrivains les plus connus, ils arrivent à obtenir du 20, parfois du 25, mais pas tellement plus. Ouais. Et donc, du coup, voilà, tu Blizzard, je gagnais 1,60 euros par exemplaire. Il n'y a pas de quoi arrêter de travailler, tu peux pas. Ouais. Alors, il s'est bien vendu. Il s'est vraiment bien vendu, j'ai eu de la chance.
Ça veut dire combien?
Il s'est vendu en grand format à 55 000 exemplaires. Et le livre de poche, là, je ne sais pas ce que l'édition du poche fait. À mon avis, il y a une opération, un livre acheté, un croissant offert, parce qu'ils en ont vendu. Il est en vente depuis début janvier et ils en sont à 45 000 depuis début janvier. Et le livre de poche, ça coûte 7,50 euros. C'est moins cher. La plupart des gens achètent des livres de poche. Moi-même, avant d'être édité, j'achetais plutôt des livres de poche que des grands formats. Donc voilà, il m'a rapporté de l'argent, clairement, bien plus que d'autres primo-romanciers que j'ai rencontrés. Un premier roman qui marche et un roman qui se vend à 2000 exemplaires. 2000, on est déjà content. Mais 2000 à 1,60 euros, l'auteur, il a... Voilà. Et c'est un peu particulier parce que tu cèdes les droits de ton livre à un éditeur pendant, accrochez-vous, 80 ans après ta mort. C'est-à-dire que ni mes enfants, ni mes petits-enfants ne pourront récupérer les droits sur mon livre. La littérature, non, clairement, c'est pas... Il y a 10% des auteurs qui vivent de leurs livres. Ça ne veut pas dire 10% qui vivent bien. Il y en a qui vivent très très bien. Et Guillaume Musso, Marc Lévy, Amélie Nothomb, ils vivent très bien. Mais dans les 10%, il y a aussi des auteurs qui ont décidé de ne rien faire d'autre. Mais moi, j'en connais deux femmes. Elles n'ont plus d'appart. Elles dorment à droite à gauche sur les canapés des copains. Et leur vie tient dans une valise. Donc c'est une position un peu radicale. Elles ne veulent faire qu'écrire, mais du coup, elles n'ont pas de quoi vivre. Mais quand même, sur le prix du livre, quand même, sur les 100% de prix du livre, il y a 10% qui partent à l'auteur, L'éditeur doit en prendre 25%, je crois à peu près. Le libraire, ça doit tourner à 25%. Et le reste, c'est des distributeurs, donc les équipes de commerciaux, en fait, qui vont, librairie par librairie, dire « j'ai un super livre à te vendre, combien tu m'en prends ?» Enfin, des marchands de fruits et légumes, en fait. « Combien tu m'en prends de... ?» Moi, je t'en prends 10. Oh, « Allez, tu peux peut-être en prendre 15. » Donc voilà, c'est sur ce, tout ne va pas à l'éditeur. Hein, c'est vraiment réparti entre les différents métiers qui interviennent dans la vente du livre.
J'agis et Thomas parle, comme disait papa. Thomas, dont l'absence a tout fait dérailler, nous a fait prendre un chemin tortueux, semé d'échecs, alors que nous avions tout pour être heureux pour les 100 ans à venir. Lorsque nous étions petits, il me réveillait avant les premières lueurs du jour, une main sur ma bouche et me murmurait un « viens » qui ne souffrait aucune discussion. Je sortais de la chaleur de mon lit pour le suivre, habillé à la va-vite et descendre le plus silencieusement possible un escalier dont nous connaissions les moindres faiblesses, posant nos pieds aux endroits les plus solides pour éviter le craquement qui aurait réveillé notre père. En bons chasseurs toujours aux aguets, nous nous glissions hors de la maison, passions à côté des baraquements encore endormis jusqu'à la forêt épargnée, et longions le lac pour arriver le plus près possible des crevasses. De cet endroit interdit où je croyais que la terre s'arrêtait pour que les oiseaux puissent prendre leur élan et s'envoler dans le vide. Thomas se plaçait sur le dernier rocher qui affleurait avant que le sol ne disparaisse, torse bombé, bras écartés comme le premier conquérant d'un monde qui n'aurait jamais de fin. Il rejetait la tête en arrière et poussait son cri de guerre. « Je suis Thomas, fils de Magnus. Voici mon frère Bénédicte, jeune mais brave. Ensemble, nous remporterons toutes les victoires. » Frissonnant, les pieds meurtris par les cailloux qui me pointaient sous mes chaussons, je regardais ce frère unique, si certain de notre destin que je n'avais même pas à m'inquiéter. Et martelant ma poitrine, de mon petit poing, je criais aussi fort que je le pouvais. « Ouais, bien dit, toutes les victoires !» J'étais alors convaincu qu'il n'existait aucune frontière pour nous arrêter, aucun obstacle pour nous freiner.
Moi, je trouve ça impressionnant que tous les personnages soient liés en quelque sorte.
Le fait que chaque personnage ait une histoire... en fait, je voyais un petit peu ce petit hameau en Alaska. C'est même pas un village. Hein, il doit y avoir 4 maisons, 5 maisons. Mmh. Je me suis dit, c'est un endroit très sauvage, c'est un endroit très dur. C'est un endroit où il y a très peu de femmes. Hein. En Alaska, il n'y en a pas beaucoup. Ce sont des conditions de vie très compliquées. Avec des gens qui vont en Alaska pas par hasard quand ils y sont pas nés, mais les gens qui y vont, c'est qu'ils ont pas envie, ils ont envie d'être tranquilles. Ce que Cole raconte sur le fait qu'il a pas envie de rendre de compte au gouvernement américain, c'est un état d'esprit. Je pense qu'en Ardèche ou dans les Cévennes, on doit avoir des types comme ça dans les petits coins reculés. Je voyais mes personnages un peu comme s'ils avaient échoué là. Avec leurs histoires compliquées, un peu cabossées, c'est un peu le bout de la route. Et effectivement, ils ont tous une histoire un peu compliquée, un peu douloureuse, mais c'est à mon avis pour ça qu'ils sont là. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de gens qui ont des histoires douloureuses au même endroit, mais je pense que le lieu s'y prêtait. En fait.
D'accord. Et parce qu'il y a des scènes quand même...
Oui, c'est alors tu vois, je me disais c'est trop violent pour des adolescents. Et il y a une jeune fille.
C'est plutôt surprenant.
Il y a une jeune fille de ton âge, ces trois classes, et je leur ai dit, c'est des sujets qui ne sont pas des sujets très gays, qui sont pas. Et elle m'a dit, et c'était rigolote, elle était un peu kawaii, elle avait un petit serre-tête en forme de chat et un tutu rose. Et elle m'a dit, mais vous savez, on est capable de tout entendre. Et effectivement, les adultes pensent qu'il faut préserver les enfants, les adolescents des sujets graves, alors qu'en réalité, on peut parler. Même à un enfant de 7-8 ans, on peut lui parler de la mort, on peut lui parler de la maladie, on peut parler de choses graves. Il faut juste avoir les mots, les bons mots, la manière juste d'en parler.
Parce que là, quand j'ai fait la voix off de Freeman qui tue son fils, j'ai eu du mal à me mettre dans l'ambiance de la voix. Quoi. Enfin, ouais.
«
C'était un extrait de la rencontre entre les jeunes lycéens de l'Argentière et l'écrivaine Marie Vintras. Son livre s'appelle Blizzard. Blizzard nous emmène en Alaska. Au cœur d'une tempête, un jeune garçon disparaît. Il n'aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets pour que Bess lâche la main de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance alors à sa recherche, suivie de près par les rares habitants de ce bout du monde. C'est une course effrénée contre la mort qui s'engage alors. Pour les élèves du lycée hôtelier, il ne s'agit pas que d'une rencontre littéraire. L'idée du projet était de travailler autour de ces rencontres, de travailler des savoir-faire, des savoir-être liés à leur cursus scolaire.
Oui, l'idée c'était vraiment de réunir la littérature et leur univers professionnel qui est la cuisine, donc de créer dans le CDI un resto-librairie où on trouve des tables, où on trouve des chaises confortables, où il y a des plantes, où on peut écouter une petite musique jazzy. Et donc de pouvoir réunir ces deux univers-là, cuisine et livres. On trouve des livres de littérature, mais aussi des livres de cuisine. Et donc de pouvoir rencontrer les auteurs tout en partageant un buffet, un repas.
Et Cook & Book, c'est eux qui ont trouvé le nom. Et ça pète quand même, quoi.
Cook & Book, bah, c'est moi l'inventeur du nom.
Enzo, élève en seconde bac pro, métier de l'hôtellerie et de la restauration, au lycée hôtelier de l'Argentière.
On est allé chercher partout, trouver une idée pour regrouper les deux, donc lire et manger. C'est à peu près ça. C'est plus un moment de détente dans une petite salle aménagée exprès pour le livre, avec différents plats réalisés par le chef et ses élèves. Voilà. De base, ici, c'était une salle informatique. Voilà. Donc, on a vraiment tout réaménagé pour vraiment se mettre une ambiance sympa, un peu comme un café littéraire ou quelque chose.
Il y a une table avec deux assiettes dessus, ouais. En face à face, deux verres. On imagine volontiers l'auteur qui en entretient avec une personne. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que vous l'avez utilisé ou c'est vraiment plus l'idée de faire une déco?
C'est plus pour la déco. On se sert plus du canapé pour accueillir vraiment tranquillement. On est bien posé ou on discute. Voilà.
Alors vous avez aussi travaillé sur un décor, il y a des rideaux rouges, et puis à l'intérieur il y a des petites boîtes, tu peux montrer?
Oui. Alors, nous on a des petites boîtes, en fait on s'était mis à l'idée avec la prof d'art plastique, et là madame qui gère le CDI, donc on avait essayé de reproduire les décors du livre, les imaginations qu'avaient les personnages dans le livre, et rajouter par-dessus nos voix pour exprimer ce que le personnage ressent, et voilà.
Pour tenir, j'essaie de me rappeler la Californie, de me souvenir des plages où les parents nous emmenaient chaque week-end après l'office, tous les quatre, au bord de l'océan à manger des sandwichs, en jouant aux cartes avec le soleil qui nous engourdissait. Cette chaleur-là, je n'arrive plus à m'en souvenir. Dans ce coin, même en été, on n'éprouve jamais cette sensation de cuir sous le rayon du soleil. C'est tout juste s'il réchauffe les os. Juste assez pour croire que vous allez avoir chaud, mais cela n'arrive jamais. Parfois, je rêve de l'océan Pacifique, de ses rouleaux, du sel sur la peau et des cheveux gainés par les embruns. Ici, il n'y a que de l'eau douce, des hectolitres d'eau douce, des lacs, rivières, fleuves, ruisseaux, cascades. De l'eau partout, tout le temps, sous toutes ses formes. Gelée, fondue, claire, comme de l'eau de roche ou boueuse au printemps. Et froide, toujours froide. Pas de quoi avoir envie de se baigner. Je donnerais n'importe quoi pour un bain de soleil sur la plage, à écouter les vagues s'écraser sur le sable. Bizarrement, j'arrive encore à me souvenir de l'odeur de cette crème solaire à la noix de coco que maman se mettait quand j'étais petite et qu'elle s'évertuait à essayer de bronzer sans coup de soleil, malgré sa peau laiteuse. Elle était vraiment pas mal avant.
Donc c'est des boîtes avec deux trous, on peut regarder à travers ces deux trous, hein, comme, ouais. Comme des jumelles. Et du coup, alors si j'en prends une là, c'est Bess par Louis. Alors j'ai un fond en coton, j'imagine que c'est la neige.
Oui.
un personnage, mais qui semble très apeuré dans une forêt. Peut-être est-elle suivie. Je pense que c'est une fille.
Alors, c'est Bess, du coup, qui recherche l'enfant disparu. Avec, du coup, dans l'extrait audio, le blizzard, elle ne sait pas trop comment ça fonctionne. Elle regrette de ne pas avoir suivi les cours de Bénédicte pour lui expliquer. Et elle est en train de chercher désespérément une trace de l'enfant. Voilà. Donc, on a fait ça un peu pour tout. Par exemple, on a... Sur la boîte de Bess par Faïda, nous avons la Californie, mais en fait, on a aussi un décor de neige qui rappelle que en fait, elle essaye de se souvenir de ses bons moments passés, mais c'est plus il faut avoir l'audio avec pour comprendre.
Alors, l'audio, justement, oui. C'est vous, je crois, c'est vos voix hein, que vous avez posées.
C'est nous. Alors, moi, j'ai fait. On a enregistré sur notre petit studio aménagé là. On a enregistré toutes les voix de tout le monde, enfin quasiment tout le monde. Et on me les a envoyées. J'ai pu faire un montage sur avec des petits bruits de fond, des petits voilà, pour se mettre bien dans l'ambiance. Voilà.
Et du coup, on peut retrouver cet audio en scannant le QR code que vous avez posé sur les boîtes.
Oui. En plus, on a été un travail acharné dessus, hein, vraiment, on peut le dire. On a ramené des bûches, des décorations qui rappellent le chalet de l'histoire. Donc, voilà.
Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, ce projet-là, dans son ensemble, hein, que ça soit en...
Alors, c'était plus l'imagination. fallait vraiment bosser dessus, lire le livre à fond et... Pas se relâcher, vraiment travailler sur beaucoup de trucs, le décor très important, et évidemment le fond sonore par exemple, oui, c'était beaucoup de travail, et en plus dans un temps imparti de 3-4 séances, donc c'était quand même un peu tendu, donc on a quand même réussi à faire un beau truc. Comme mettre dans l'ambiance du livre, c'était notre but principal. Moi, j'ai beaucoup appris que je pouvais, même si je suis pas bon en art plastique ou n'importe, que je pouvais quand même apporter une différence et un atout pour l'équipe, on va dire.
On sent que t'es fier quand même.
Je suis un peu fier.
Nos futurs cuisiniers ont également préparé un repas inspiré par le livre et son autrice. Le buffet a été servi après la rencontre. Cet enregistrement a été réalisé lors de la venue de Marie Vintras, autrice du livre Blizzard au lycée hôtelier de l'Argentière. C'était un reportage d'InfoRC.